Pascal Jardin, l'affaire Christelle Blétry. Le lendemain matin, Nedilko partage un café avec lui dans la cour du commissariat avant son prochain interrogatoire. La conversation est informelle, le policier aborde sa vie personnelle, son divorce, ses loisirs, sa foi en Dieu. Il glisse à Jardin qu'il est persuadé de s'adresser au meurtrier de Christelle et que sa ligne de défense est intenable en l'état actuel des choses, qu'il serait préférable pour lui qu'il soulage sa conscience. D'abord réticent, Jardin admet qu'il a des choses à dire et demande à parler à son avocate avant de débuter l'interrogatoire. À l'issue de cet entretien, Nedilko trouve l'avocate et le suspect en larmes tous les deux, l'une émue par les aveux de l'autre. En ce 10 septembre 2014, la chaleur est écrasante à Bordeaux. Les locaux de la police judiciaire ne sont pas épargnés. Nedilko s'assied face à son ordinateur et allume la caméra. Jardin, vêtu d'un t-shirt aussi gris que les murs de la pièce exiguë, s'installe à côté de son avocate aux yeux rougis. Elle, aussi pâle que Jardin et bronzée, agite un éventail pour tenter de se rafraîchir. Pascal Jardin prend une longue inspiration et se lance. La nuit du meurtre, il s'est arrêté dans un bar de Chalon-sur-Saône. Il a descendu quelques bières, plus que d'habitude sans doute. Sur le chemin du retour, arrivé au stop, il aperçoit une jeune femme sur sa gauche. Elle marche vers lui le long de la route. Il est minuit 45. Jardin descend de voiture, s'approche de la jeune femme et la force à monter dans sa voiture. Elle ne se défend pas, sans doute tétanisée par la peur. Jardin reprend la route et s'arrête non loin. Il lui fait comprendre qu'il veut une relation sexuelle. Armé de son couteau, il l'oblige à se dévêtir avant de faire de même. Il enfile un préservatif et commence à la violer sans y parvenir réellement, la chose n'étant pas aisée dans l'habitacle. Jardin exige alors qu'elle le masturbe. Une fois terminé, Jardin se rhabille. La jeune femme fait de même et, profitant de l'inattention de son ravisseur, s'échappe de la voiture en courant en direction de la ferme qu'elle aperçoit au loin. Elle hurle de tout son souffle. « Je lui ai couru après, couteau à la main, je n'étais plus moi-même, je ne contrôlais plus rien du tout », explique Jardin. « J'étais pris d'une rage folle, je ne sais plus combien de coups de couteau je lui ai donné. » Nedilko le laisse poursuivre sans poser de questions. Au début, c'était pour l'arrêter, mais son hystérie, ses cris, sa grosse panique m'ont fait changer de projet. Elle n'arrivait plus à courir, je l'ai rattrapée, j'ai sorti mon couteau. Elle a essayé de me frapper avec son sac à main, j'ai disjoncté moi aussi. Pris d'une rage folle, j'ai frappé à l'aveuglette, devant, derrière, elle était debout, elle se protégeait avec les mains sur le corps. Au début, mes coups étaient désordonnés, elle n'a pas eu trop mal. Mais quand mes coups touchaient le ventre, elle hurlait. Il y avait des coups plus violents que d'autres. Elle a dû crier entre 5 et 10 minutes. Je me suis arrêté de frapper quand elle s'est effondrée. Je n'ai pas déplacé le corps, j'ai vite regretté ce que j'avais fait. Le silence se fait dans la pièce, comme pour revivre celui d'il y a 18 ans, alors que le dernier souffle de vie s'échappait de Christelle Blétry. Qu'avez-vous fait ensuite ? Encourage l'inspecteur. Jardin reprend, expliquant qu'il est simplement remonté dans sa voiture, rentré chez lui, qu'il s'est lavé les mains, préparé un sandwich, avant de s'allonger à côté de sa femme pour la nuit. Le lendemain matin, il s'est levé, se persuadant que les événements de la veille étaient un mauvais rêve. En ce qui concerne son mobile, Jardin explique que tout cela est arrivé à cause de sa femme. Oui, c'est elle qui le pousse à bout, l'humilie en permanence, gère tout à la maison. Lui n'a plus le droit seulement de penser sans son accord. Comme en 2004, il a ressenti le besoin de reporter sa frustration sur une femme. Nedilko stoppe à l'interrogatoire, relit et imprime le PV. Jardin le signe, l'inspecteur contacte la juge. En plus du meurtre dont il est accusé, Jardin vient d'avouer un viol. Elsa Ossavi doit obtenir du parquet un réquisitoire supplétif pour meurtre précédé d'un autre crime, en l'espèce un viol. La peine maximale encourue est donc la perpétuité. Jardin retourne quelques heures en cellule. Après un bref repas, sa 5e audition débute. Il va devoir donner les détails de son crime. Le moment est important car c'est l'instant où chaque détail compte pour le procès. Le moment où l'on va pouvoir comparer sa version avec les constatations des légistes et enquêteurs sur la scène de crime, le corps et les pièces à conviction. Durant de longues minutes, Jardin explique comment il a essayé de pénétrer Christelle, mais qu'il n'a pas réussi à maintenir son érection. Régulièrement, Jardin ponctue son récit par des termes surprenants. Pour lui, les conditions étaient favorables. Il entend par là que Christelle ne s'était pas débattue, n'ayant pas hurlé, c'est comme si elle était d'accord avec ce qu'il faisait. Elle ne l'était peut-être pas vraiment, mais elle n'était pas vraiment contre non plus. Le couteau, la forme imposante, le regard de prédateur et la voix grave de Jardin n'y sont pour rien du tout. Nedilko boue intérieurement en raison de l'ignominie de ce qu'il entend, mais il ne peut en aucun cas montrer sa rage. « J'espère que vous allez m'aider », confie Jardin à l'inspecteur. L'aider, ce n'est pas son rôle. Nedilko imprime ce nouveau procès-verbal contenant les aveux détaillés et circonstanciés de Pascal Jardin. Après un bref nouveau passage en cellule, le suspect est ramené à Dijon pour être présenté à la juge d'instruction. Pendant cette ultime audition avant l'incarcération, Raphaël Nedilko appelle Marie-Rose Pichon, de peur qu'elle apprenne une fois de plus les choses par voie de presse. Soulagée que le coupable soit enfin retrouvé, elle s'effondre devant la cruauté du crime. La juge au savis demande à Jardin comment se sont déroulées ces dernières 48 heures. Il répond « La garde à vue s'est très bien passée. Je souhaite à tout le monde d'avoir affaire à un enquêteur comme M. Nedilko. » La remarque est consignée. En présence d'un nouvel avocat commis d'office, il renouvelle ses aveux en expliquant avoir repensé régulièrement à cette histoire jusqu'en 2006, avant de l'enfouir profondément dans ses souvenirs. Pascal Jardin est mis en examen, puis incarcéré. Lors de chaque audition, un avocat est présent. À chaque fois, Jardin ne montre d'inquiétude ou de remords que pour lui-même et ce qui va lui arriver. Un mois plus tard, Pascal Jardin change d'avocat et c'est un tout autre discours qu'il présente. C'est le moment où l'on se rend compte à quel point la juge Osavi s'est trouvée bien avisée de faire consigner les mots de Jardin concernant Nedilko dans le PV d'audition. En effet, en octobre, Pascal Jardin demande une nouvelle entrevue avec le juge. Il est extrait de sa cellule et présenté à Elsa Osavi avec son nouveau conseil, Maître André Laborderie. Dans le huis clos du bureau, Jardin explique que ses précédents aveux sont faux, qu'il les a faits en raison de pression policière, et particulièrement de la part du brigadier-chef Raphaël Nedilko. Ce dernier lui aurait demandé d'avouer afin d'obtenir une réduction de peine. Il l'aurait manipulé de manière à le faire craquer et lui aurait soufflé toutes les réponses à donner en entretien. Qu'elle y croit ou non, la juge est obligée de prendre en compte la nouvelle version de Jardin. Dans celle-ci, il reconnaît avoir eu un rapport sexuel avec Christelle Blétry, mais il indique que c'était consenti. Sur demande expresse de la juge, il reprend depuis le début. Je rentrais du travail à Châlons et arrivé au stop de Blanzy, celui qui coupe la rue de la République, j'ai aperçu cette fille qui venait d'un pas assez alerte. Elle tape à ma fenêtre, j'ouvre. Elle me dit « Est-ce que je peux monter ? Je me sens pas bien. » Je reste dans la voiture et je lui dis « Allez-y, montez. » Là, elle passe devant ma voiture pour rejoindre la place passagère avant droit. Je me gare sur le pont qui enjambe la voie express un peu plus loin. C'est là qu'elle me dit à peu près « Non, surtout pas là. » Je suis donc allé me stationner un peu plus loin. Quand elle me dit ça, je comprends que ce n'est pas un problème de santé, mais qu'elle se cache, qu'elle a peur de quelque chose. Je lui ai demandé ce qui se passait et je n'ai jamais eu de réponse concrète à mes questions. Je l'ai sentie mieux dans sa peau. Elle s'est sentie soulagée d'être là, avec moi. Elle avait besoin d'être rassurée. Mais de quoi, je ne sais pas. Elle m'a dit qu'elle avait chaud et elle a posé son manteau, puis elle a enlevé son pull et j'ai aperçu son soutien-gorge. Elle s'est entièrement déshabillée, j'ai fait pareil. Une fois nus tous les deux, j'ai enjambé le levier de vitesse pour venir sur le siège passager, mais c'était très inconfortable donc ça n'a pas duré. Je suis retourné à ma place, j'ai enlevé le préservatif et je lui ai fait comprendre ce que je voulais. Mais c'était surtout pour elle, car elle voulait rester plus longtemps en sécurité. Après, je lui ai demandé si on pouvait se revoir, elle m'a dit non. Que c'était une histoire sans lendemain. Je ne saurais vous dire pourquoi elle était angoissée. Elle est repartie seule, à pied, en direction du village, puis je suis rentré chez moi. Pourquoi M. Jardin n'a-t-il pas dit cela dès le départ à la police lors des appels à témoins de 1997 ? Parce qu'il ne connaissait pas le prénom de Christelle. Il ne savait pas que c'était cette même fille qui était morte, et puis d'abord, il n'a jamais entendu parler de cette histoire de meurtre avant qu'on ne l'arrête le mois précédent. et dans le noir, il n'a pas franchement vu son visage. Le lendemain, j'ai déjeuné avec ma famille. Dans l'après-midi, on s'aperçoit qu'il y a de l'agitation dans Blanzy. À part notre voisin, personne ne nous a parlé de cette affaire. Je n'allais pas parler aux policiers puisque je ne savais pas qui était cette jeune fille et je ne sais pas si son visage est apparu à la télévision. 4 ou 5 jours plus tard, j'ai imaginé qu'il y avait peut-être un lien avec la jeune fille. À l'époque, je n'avais pas d'amis à qui me confier. Je n'étais pas sûr que c'était elle, donc je ne devais pas aller voir la police. En plus, je risquais de perdre définitivement mon épouse. Soit, mais quand on l'a arrêté, pourquoi n'a-t-il pas parlé de cette nuit-là? Parce qu'il n'a pas jugé ce rapport pertinent. Jardin ajoute qu'il ne connaît pas l'endroit où on a découvert le corps. Il explique qu'il a réalisé un croquis précis des lieux du meurtre uniquement grâce aux indications des policiers. Pourtant, sur la vidéo de l'interrogatoire, on voit bien que Jardin parle de manière fluide et continue. Nedilko ne pose même pas de questions durant les aveux, sinon à la fin pour avoir quelques précisions sur le viol. Quant au croquis, Jardin le réalise seul, sans aucune aide ni indication et en présence de son avocate.